En fait, le tsiganisme, comme c'est un mot qui a été imposé par des gadgets, il y a ce terme de romaphobie en fait qui est parfois utilisé pour justement, c'est la même signification que de l'anti-tsiganisme, mais c'est pour éviter d'utiliser ce mot qui parfois n'est pas accepté. Mais ça dépend parce que parfois, par d'autres, le mot tsigane il est revendiqué, donc voilà, ouais, on peut utiliser les deux.
Il peut y avoir une rappropriation quelque part de retourner le stigmate.
Voilà.
On écoute William Acker, qui est le délégué général de l'Association nationale des gens du voyage, qui parle de ce racisme d'État.
Ce qui est certain, c'est qu'il y a un anti-tsiganisme systémique, c'est-à-dire qui est vraiment diffus à toutes les strates de la société. Je pense que c'est très illustrant si vous tapez aujourd'hui « gens du voyage » dans une barre de recherche Google, Twitter, Facebook, peu importe le moteur de recherche, peu importe la plateforme, vous y verrez des contenus à majorité négative, voire à grosse majorité raciste. Et ça, on l'expérimente au quotidien aussi, en tant que voyageur. Et effectivement, on ne peut pas complètement découpler l'imaginaire collectif de l'imaginaire étatique et de sa retranscription juridique. Et effectivement, en France, il y a des lois qui ont été clairement anti-tsigane. Le statut de nomade a mené à un fichage qui a servi d'outil, en tout cas, à l'internement de nos arrière-grands-parents, par exemple, qui a servi également d'outil ensuite à la déportation de certains d'entre eux. Et de la même façon que la catégorie administrative de gens du voyage a servi à un fichage par le carnet et le livret de circulation. Pendant très longtemps, il fallait pointer tous les 3 ou 6 mois au commissariat en France quand on était gens du voyage. Et ça, ça a été reconnu juridiquement comme une loi discriminatoire. Donc en 2012, le Conseil constitutionnel a sanctionné la loi de 1969. Il faut savoir par exemple que la grande majorité des voyageurs n'avaient pas accès au droit de vote jusqu'en 2012. C'est-à-dire que pour le reste de la population, pour être inscrit sur une liste électorale, il fallait exercer son domicile pendant plus de 6 mois sur une ville, une commune. Pour les voyageurs, c'était plus de 3 ans. Puis il y avait d'autres dispositions, par exemple la question du quota de gens du voyage par ville. Jusqu'en 2015, toutes les villes ne pouvaient pas inscrire plus de 3% de leur corps électoral en tant que gens du voyage. Donc le droit en lui-même a été jugé discriminatoire par ses propres instances, le Conseil constitutionnel notamment. Et ça, c'est important, parce qu'on peut dire que juridiquement, il y a eu un anti-tsiganisme d'État en France.
Voilà, les témoignages sont évidemment importants pour bien comprendre. Sandro, peut-être que tu peux parler un petit peu de toi, comment tu vis cette situation.
La situation ici en France, c'est pas. Nous avons venu ici pour le trouver un pays qui respecte toutes les communautés, toutes les ethnies, mais non, c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Et par rapport de tsiganisme et de Roms, ça dépend des gens. Il y a des gens qui s'appellent tsiganisme, il y a des gens qui s'appellent Roms. Mais par exemple, moi, je préfère que Roms, que les gens m'appellent Roms, et je préfère pas le tsigan, par exemple. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Ça dépend des gens comment ils respectent l'ethnie. Mm.
Ok. Je suis d'accord avec mon ami Sando. En fait, c'est vrai parce que on est dans un pays que c'est pas assez suffisant pour nous, quoi. On n'a pas si beaucoup d'aides. En fait, on est malheureux ici en France parce qu'on n'a pas beaucoup d'aides. On habite dans les camps, dans les foyers et partout.
Et toi, par exemple, tu te considères plutôt Rome ou Tzigane quand tu te présentes Rome.
Ouais. Je préfère Rome, quoi. C'est mieux.
C'est quelque chose qui vous rassemble aussi.
Ouais.
Ce qui rassemble aussi, c'est la musique. Peut-être qu'on peut faire une petite pause musicale.
Enye kangam gelem gelem.
Yo.
Très bonne question. C'est là où on voit les professionnels quand même.
Je sais pas, c'est Gelem Gelem, c'est albanais.
Ouais.
Oui. On va l'écouter, on va voir.
Peut-être qu'on peut l'écouter et, voilà, et après... On aura plus d'idées.
Exactement. Oui.
On va parler.
Voilà. Pendant et après, quoi. On va se mettre d'accord, voilà. Bon, ben, get him.
Chaque nuit sous sa main, koja obraz klasi.
Voilà, de retour sur les ondes de KL Sud 92.2 avec le collectif En Place. Bon, enfin, finalement, après mûre réflexion, c'est du serbe.
C'est une chanson serbe, ouais. Donc ouais. On s'est mis d'accord.
Alex, tu voulais prendre la parole ?
Je voulais parler de moi, de ma vie, sexualité. En fait, j'ai une vie vraiment compliquée parce que j'habite dans le camp et les gens ne sont pas trop contents de moi. Ni les gens, ni ma mère aussi. Et parce que je suis homosexuel, c'est pour ça. Et à chaque fois, ils m'embêtent, les gens, ils me crient dessus et tout. Pourquoi t'es comme ça? Pourquoi tu ne vas pas changer ta vie et tout? Et je ne peux pas faire ça, tu vois. Ma mère aussi, à chaque fois, elle m'engueule et tout. Elle me critique, elle m'insulte parfois. Pourquoi je ne me change pas? Pourquoi je suis toujours comme ça? Moi, je lui dis que je ne peux pas me changer parce que je suis comme ça à Annie. Et après, voilà, les gens aussi en ville et tout, ils m'insultent, ils m'entraînent par plein de choses aussi. Trop dur de vivre comme ça et je ne sais pas quoi faire pour choisir une vie bien pour moi, quoi.
Et est-ce que tu connais peut-être d'autres personnes de ta communauté qui ont la même orientation sexuelle que toi ?
Ouais, il y en a plusieurs, ouais. Je sais pas comment, il y en a plusieurs aussi. Ils sont tous malheureux, pareil comme moi, quoi.
Mmh. Ouais. Du coup, c'est une discrimination que tu vis en plus d'être peut-être d'une communauté rom. En plus, tu as cette homosexualité qui,
ouais,
qui te rend doublement triste par rapport à ta vie.
Ouais, mais trop triste.
Et peut-être, Jimmy, toi, tu as envie de parler de discrimination ou de ce que tu vis au quotidien, peut-être des difficultés que tu as.
Prashanetie ya marino angachute ti albanise de sotu flasport directa temia provoiti te famille estime.
Alors, Marino, il a parlé de la situation en Albanie. Il a parlé de la famille. Ils ont 7 personnes dans la famille et il y a beaucoup de difficultés. La difficulté sociale, économique, par rapport de l'été de pays d'Albanie, qu'il y a de discrimination. Parce que l'Albanie, il n'accepte pas le communauté rom, mais la loi, il dit qu'on est égal, mais dans la pratique, c'est l'autre chose, qu'ils n'ont pas accepté pour scolariser les enfants, qu'ils n'ont pas de droit pour trouver un travail dans l'administration, qu'ils n'ont pas de droit pour un logement, comme l'autre Albanais. Par rapport de la discrimination de la communauté rom. Mais ça, toute la communauté rom, ils vivent dans le campement, et ils vivent tous ensemble. Ils n'ont pas avec l'autre communauté d'Albanie. Mais ça, ils n'ont pas accepté l'intégration. Les gens, l'Albanais, ils ne approchent pas.
Donc en Albanie, il y a des communautés roms qui sont forcées d'habiter en campement, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Parce qu'elles sont discriminées dans leur propre pays.
Oui, okay. L'hébergement est peut-être...
D'accord.
Pounia Marino, aflias per situate ne famille estime, de per situate si le chipo...
Marino, il parle pour la famille, pour sa famille, qu'ils ont de difficultés.
En Albanie, c'est très, 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 très compliqué. Et pour ça, il est venu ici en France pour vivre plus mieux, parce qu'il espère trouver un travail ici en France, pour le scolariser même ici en France.
Comment Marino, en Albanie, a connaissance, en fait, de la France comme pays possible d'accueil?
Si e ke njëjtur, thot, do me thënë në shtetin e Francës, thot, nga kush e ke njëjtur, që ke ardhën në Francë?
E njofa nga familjar të babajt, nga motre babajt.
Oui, Marino, il a connu que la France parce qu'il y avait le, son oncle, il était déjà ici en France, qu'il a parlé avec la France, que c'est un bon pays, qu'il respecte les lois, qu'il scolarisait les enfants par rapport à son oncle.
C'est vrai que les enfants reviennent souvent à la scolarisation. J'ai l'impression aussi que leur rapport à une communauté passe par la scolarisation, quoi.
Mais il y a tellement de choses qu'on est censé exiger qu'on n'obtient même pas,
oui.
comme ne serait-ce que la scolarisation des enfants. De 6 à 16 ans, c'est un devoir. De 3 ans, non, à partir de 3 ans, c'est obligatoire. Bon, bah, des mairies, des services scolaires continuent à refuser des scolarisations.
Oui.
Et à ce moment-là, on demande aux militants, on demande aux familles de se retourner vers le préfet ou bien vers l'académie pour contourner le maire. Donc, double travail, double temps,
oui.
Pour in fine arriver à une chose qui est obligatoire. Donc, on y arrivera. Mais ça prendra du temps, ça prend de l'énergie. Et ça met évidemment le gamin. Le gamin, quand il voit les difficultés qu'il a pour aller à l'école, quand il arrive à l'école, il se dit bien qu'il n'est pas comme les autres, quoi.
Oui, c'est la première chose qu'il va continuer de vivre. Hein. C'est la scolarité des enfants. Moi, je vais parler pour mon situation, mon famille, pour mon pays, que je viens de même moi d'Albanie, mais je suis de la communauté rom. Alors, j'ai mon famille qui habite en Albanie, mon père, mon frère qui est marié, il a 2 enfants, et l'autre frère qui est marié, il a 3 enfants. Et ils ont donc très difficultés parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'ils n'ont pas accepté dans toute l'administration d'Albanie. Même dans la rue, il y a de discrimination, personne dans le privé, personne qui te prend pour le travail. Je parle pour la scolarité, que nous n'avons pas d'accès pour scolariser les enfants. Même quand les enfants, on va inscrire dans l'école, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de discrimination. Je parle pour l'hôpital, pour dans tout le pays, même le médecin, quand il t'a vu que tu es de la communauté rom, alors il te donne le service de médecin. Ouais. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Même si tu as de l'argent, il te demande de l'argent. Si tu as de l'argent, d'accord, mais si tu n'as pas de l'argent, c'est très, très, très difficile. Moi, j'ai un exemple. Mon père, ça fait 2 mois qu'il a fait une opération de l'estomac. Et le médecin, ils ont dit, mon frère peut le payer 1000 euros. Sinon, ils n'ont pas fait l'opération. Alors, mon frère, il n'y avait pas de l'argent. Alors, nous avons demandé dans toute la famille pour prendre 100 euros par là, 150 euros par là, que nous avons trouvé l'argent pour le donner au médecin. Même moi, avec une personne albanaise, nous avons le même passeport. Il n'y a pas de différence.
Eh oui.
Il n'y a pas de différence, mais dans la loi, nous ont parlé, mais dans la pratique, nous n'ont pas parlé.
Après, cette difficulté aussi d'accès aux soins, donc elle est dans votre pays d'origine, mais elle est aussi en France. On voit
même
ici
en France, oui. Oui, bien sûr.
Ouais.
Même ici en France, parce que ça fait longtemps que j'attendais que la France respecte la loi. égalité, fraternité.
Ouais, on attend toujours.
Ouais, ouais. Et c'était, pour moi, c'était un rêve que je peux venir en France. Mm. Mais maintenant, ça fait 5 ans et je connais bien la France et je connais comment elle fonctionne.
Ouais. On a par exemple des exemples parfois de sur des places, des moments où il y avait besoin en fait de soins. On avait appelé des ambulances et les ambulances refusaient de rentrer dans le plat parce que c'était des personnes de communauté rom.
Oui,
ouais,
c'est
comme c'était l'autre fois chez nous quand on brûlait le camp à route d'Espagne.
Il y a eu un incendie. On se
dit la même chose, les pompiers qui sont fous pour notre feu, quoi. Ils ont arrivé vraiment tard.
Ouais.
J'étais en train d'appeler. Elle me dit, ouais, comment ça, la dame, il voulait savoir c'est quand et comment, c'était à quelle heure. C'est vraiment...
Alors qu'il y avait le feu sur le camp, quoi.
Ouais,
ouais, ouais.
C'était vraiment chiant.
Et les pompiers, ils ne voulaient pas intervenir, c'est ça,
non,
sur le terrain?
Non, ils ont arrivé vraiment tard. Vraiment tard, ils ont arrivé vraiment tard.
Ils voulaient attendre, l'accord de la mairie.
Oui, c'est ça que je crois aussi. Hein.
En fait, quand il y a eu l'incendie là, sur Saramon, c'était, donc, je crois, de mémoire, vers le début avril. Quoi.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et donc, l'incendie a commencé vers 5h du matin. Donc, les habitants étaient en train de dormir. Ils se sont fait réveiller par l'odeur.
On connaît l'origine, simplement, qu'on puisse. On connaît l'origine du feu.
Ah non.
Parce qu'à 5h du mat.
Non, c'était, ça arrivait comme ça, quand on ne sait pas du tout.
Accidentel, quoi.
Ouais, c'est accidentel. Ouais.
Ouais. Et donc, oui, les pompiers ont mis du temps à arriver. Et puis, bon, ils ont essayé d'éteindre un peu. Et quand nous, on a été prévenus, on s'est rendus sur place. C'est là où on a vu Alex. Et en fait, il y avait encore un peu de flamme.
Ouais.
Ça repartait, quoi. Et donc, on a rappelé les pompiers. Et là, ils ont dit, bon, on peut rien faire sans l'intervention de la mairie. Voilà, donc après, il y a eu, je crois, une dizaine de caravanes brûlées. Il n'y a pas eu de solution d'urgence mise en place, que ce soit par la préfecture, le 115 ou la mairie.
Du tout, on n'a pas vu beaucoup de zettes. Si vous n'êtes pas venir, après les autres, la mairie et tout, et ils sont fous.
Ils
quoi.
Vous ont laissé comme ça, quoi.
Ils ont laissé comme ça. Il y a la mairie qui est passée, il n'a même pas dit bonjour, quoi.
Mm.
Il est parti, c'est tout.
Mm. Bah que ce soit une petite équipe du collectif En Place qui soit venue amener de la nourriture.
Oui, c'est ça.
Voilà, moi, je trouve ça complètement délirant, quoi. Qu'il n'y ait pas eu d'autres aides.
On a cité tout à l'heure Lise Boisseneau. On va écouter un son qui parle des conditions de vie, justement, de ces communautés en France. Et elle explique comment les différentes lois Besson, parce qu'on va arriver justement à l'importance de la loi, ont abouti à un cadre de contrôle sécuritaire. On écoute ça et comme ça, tout le monde s'installe.
Au début du XXe siècle, si je résume ça, on contrôle la mobilité des nomades. Donc on contrôle la mobilité en contrôlant les individus. Chaque individu est porteur d'un livret. Dans le second XXe siècle, c'est plus l'individu qui est contrôlé, c'est le groupe au moyen de lieux qui sont des lieux de stationnement dédiés et qui sont surveillés soit directement par la police, soit par des administrations locales, soit par des travailleurs sociaux qui sont censés être spécialisés dans ces populations. Donc l'histoire de ces hameaux tziganes n'a de sens que si on prend en compte les années de la Seconde Guerre mondiale et les conséquences de l'assignation à résidence et de l'internement des nomades. Puisqu'on interdit le stationnement des nomades dans la plupart des communes françaises, donc progressivement les maires vont avoir l'idée de créer des terrains dédiés aux populations dites nomades. Et ces terrains, qui vont déjà dans les années 50, dans les années 60, être situés, comme disent les voyageurs, dans des gadous, sont les ancêtres des actuelles aires d'accueil. C'est seulement dans les années 90 que entre dans une loi l'idée que les gens du voyage doivent stationner dans des lieux dédiés. Ces lois, d'ailleurs, donc ces lois Besson 1 et 2, donc en 90 et en 2000, sont présentées comme des lois d'accueil, des lois humanistes qui permettraient aux voyageurs de stationner à différents endroits du territoire français. Quand on regarde dans le détail l'histoire de ces aires d'accueil, on se rend compte que, au contraire, c'est l'acmé d'une politique, donc les lois Besson, qui vise à enserrer dans des lieux clos des voyageurs.